Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Colline Picot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cet entretien pour l'équipe de Majolir et pour Couleur FM.
Merci de l'invitation.
Vous êtes là pour nous parler de bouquins, de bandes dessinées que vous avez écrites. La première, Disgratia, qui concerne l'immigration essentiellement sicilienne en France, qui est parue en 2014, je crois. De l'autre côté, qui traite de l'immigration maghrébine. Si vous voulez, je pense que ça va être plus facile. On va évoquer le premier bouquin, puis le second. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, le premier, il a une particularité. C'est qu'il vous est personnel. Vous racontez l'histoire d'une famille, une grande famille, la vôtre.
Oui, c'est l'histoire de ma grand-mère, effectivement. Et de son enfance à Grenoble dans les années 30-40. Et aussi l'histoire de sa mère.
Ça commence par une soirée organisée à Fontaine, je crois.
Oui, un repas à Fontaine, oui.
Par l'Union Sommatinese.
C'est ça.
C'est ça qui vous a donné envie? Vous y êtes allé comme ça?
Non, ce qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se jouait un peu dans la famille de ma grand-mère. Et j'étais un peu fatiguée de rien comprendre de qui était qui dans cette famille, parce qu'il y a énormément de personnes, comme des familles nombreuses, en fait. Et donc, ma grand-mère me parlait de personnes, un grand-oncle, un cousin, et j'étais incapable de situer. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu m'intéresser pour essayer de comprendre, en fait, de qui elle me parlait. Et puis après, progressivement, pour essayer de comprendre un peu ce qu'elle avait vécu et ce qu'avait vécu cette famille arrivée de Sicile en 1923 à Grenoble.
Vous avez dit une grande famille, il y a une foule de personnages. On ne s'y retrouve pas toujours quand on n'en fait pas partie.
Ouais, même quand on en fait partie.
Et vous racontez beaucoup de choses sur l'histoire, des années, en gros, des années 20, des années, voire même un peu plus tôt.
Jusqu'à l'après-guerre.
Jusqu'à l'après-guerre. Donc c'est un livre qui est très riche. Alors au départ, il y a une famille, il y a une famille sicilienne et vous évoquez le travail dans les mines de soufre.
Effectivement, il y avait beaucoup de... Alors, Somatine, donc, c'est une ville en Sicile, d'où sont issus la majorité, on va dire, des Siciliens à Grenoble. Et effectivement, il y avait, je crois, deux mines, ou trois, en tout cas, à côté de Somatine, à côté de Delia, où beaucoup de Siciliens ont travaillé. Les mines, alors je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que les mines ont fermé définitivement, je crois, dans les années 60, mais ça a commencé à fermer dans les années 20-30. Et de toute façon, la Sicile était très très pauvre à cette époque. Donc oui, là je me perds complètement. Mais effectivement, les conditions de travail étaient très difficiles dans les mines, oui.
Alors, ces conditions de travail difficiles, donc une pauvreté qui gagne du terrain, le fascisme qui ne va pas tarder à s'installer, est-ce que c'est ça qui motive un premier départ et puis d'autres vers la France?
Le premier départ dans les années 20, voilà. C'est pas le fascisme, c'est vraiment la misère. La misère et puis le fait qu'on est au sortir de la Première Guerre mondiale, qu'en France, il y a du travail de reconstruction de la France et donc qu'on fait un appel large aux étrangers pour venir reconstruire la France. Il se trouve que la Sicile, on peut aller en train jusqu'à Chambéry où se trouve le consulat d'Italie et de là, Grenoble n'est pas loin. Et donc en Sicile, à l'époque, il y avait des annonces. On recherche des travailleurs à Grenoble. Donc c'est comme ça que les premières personnes de ma famille sont venues pour ces raisons-là en tout cas. Elle savait qu'il y avait du travail en France.
Elles avaient vu des annonces. C'est pas l'invitation d'un parent, d'un voisin.
Non, parce que c'est vraiment les premiers. À l'époque, je me rappelle plus exactement, mais dans les années 20, il y avait vraiment très très peu de Siciliens à Grenoble. Hein. C'est les premières arrivées. Donc non, moi, les gens de ma famille qui sont partis, ils n'avaient aucune famille à Grenoble. C'est les premiers à s'être installés. Après, bien sûr, la famille est venue les rejoindre.
Alors, il est intéressant votre bouquin parce qu'en même temps, vous donnez des chiffres. Et les chiffres sont impressionnants. Hein, vous dites entre 21 et 30, le 1921, 1930, il y a plus de 2 millions d'Italiens qui quittent leur pays. C'est incroyable.
L'Italie était un pays très pauvre, en fait. C'est un pays où, effectivement, il y a eu énormément de migrants, notamment aux États-Unis, où il y a une population italienne très forte. En Argentine aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'Italiens qui sont partis là-bas. Et bien sûr, en France, pays frontalier, en Suisse aussi. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas souvent cette histoire au niveau de l'Italie, qui, les populations du Sud, comme ça, sont les parties les plus pauvres de l'Italie, en fait, les Pouilles, la Sicile, ont énormément immigré. Et ça, depuis la fin, depuis 1880. Enfin.
Est-ce que j'ai bien mémorisé les chiffres que vous donnez? La moitié de ces 2 millions sont allés en France?
Si c'est écrit, c'est vrai.
Oui, bon, alors si c'est écrit, c'est vrai, d'accord. On est saisi par l'ampleur donc de l'immigration italienne en France, mais dans notre région, alors ici, bien sûr, tout particulièrement en Orisère, mais évidemment, Grenoble, c'est impressionnant.
Oui, effectivement, bah, c'était une grande ville. Il y avait beaucoup de travail. Il y a eu aussi pas mal d'Italiens qui sont allés sur le plateau Matézin, vers la Mure, là-bas. Il y avait des mines aussi. Donc, travailleurs de mines retrouvaient les mines. Et à Grenoble, c'était plutôt du travail dans les tanneries, dans les usines. Et à une époque où, effectivement, Grenoble commençait à développer tout un quartier industriel, qui est le quartier Saint-Bruno, qui connaissent un peu Grenoble, qui s'est développé à partir de ces années-là, début du XXe siècle. Et donc, a eu besoin d'énormément d'immigrés pour travailler.
Je fais juste une parenthèse pour dire qu'on parlera du dessin, parce qu'il y a du texte et il y a du dessin.
Oui.
On en parlera peut-être entre les deux présentations de vos livres. Ça sera peut-être plus pertinent, mais on ne l'oublie pas. Des chiffres quand même. Hein. Concernant Grenoble, vous dites en 1911, il y en a 100. Hein. Et puis 20 ans plus tard, ils sont 12 000.
Voilà.
C'est vraiment considérable. Et 12 000 plus les 3 000 personnes qui sont déjà naturalisées.
Oui.
Ça représente 66% de la population étrangère à Grenoble.
À l'époque, oui, les Italiens étaient vraiment la population étrangère la plus nombreuse.
Et quand on va du côté d'une commune limitrophe, Fontaine, à la même époque, dans les années 20-30, 30% de la population est italienne.
Oui.
Ou d'origine.
Effectivement, c'est... Alors, plutôt à l'époque, on est dans les années 30, là, c'est ça ? Il y a peu de Français encore, les gens sont encore italiens. Il y a une grosse population italienne qui va devenir français pendant la guerre, en fait, parce qu'on va demander aux gens de choisir soit entre la nationalité française, soit retourner en Italie, en fait, parce qu'à un moment donné, la Seconde Guerre mondiale est un conflit entre la France et l'Italie, et les Italiens immigrés en France se retrouvent au milieu de ce conflit-là et doivent choisir la nationalité française pour beaucoup. Enfin, c'est un non-choix un peu. Mais ma famille a pris la nationalité française à ce moment-là, en tout cas. Et à Fontaine, effectivement, c'est les Siciliens, beaucoup, mais qui, au départ, s'étaient implantés près de la gare, dans le quartier Saint-Bruno, et qui ensuite, petit à petit, se sont déplacés vers Fontaine, qui est devenue la ville italienne, mais presque la ville sicilienne, on pourrait dire, oui.
Alors, on est à peu près dans les années 30. Dans les années 30, en France, il se passe pas mal de choses. Et ça aussi, vous le racontez à travers les yeux de ces gens qui arrivent. On parlait du Front Populaire.
Après. Oui.
Il y a la guerre d'Espagne, il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a l'engagement dans la résistance, il y a une présence fasciste en France qui essaye de récupérer des Italiens pour les ramener au pays. C'est important tout ça, y compris pour eux.
Au niveau de la résistance, oui, effectivement. Alors... Comme c'est ce que je disais tout à l'heure, les Italiens sont coincés entre... Alors au départ, il y avait Mussolini. Certains ont fui Mussolini, sont venus en France. Mais en France, on les considère comme des ennemis, quoi qu'il en soit, puisqu'ils sont italiens. Il y a l'occupation italienne en France pendant la guerre. Enfin, c'est très compliqué. Et effectivement, il y a des Italiens qui font partie de la main-d'œuvre immigrée, les Français, comment ça s'appelle déjà, la FTP Moy, la main-d'œuvre immigrée, la section de la résistance immigrée, qui était. Certaines sections étaient dirigées par des Italiens, et effectivement, et coordonnées la résistance au niveau des immigrés. Mais oui, c'est des années très très fortes sur le plan politique, et j'en parle notamment au travers des souvenirs de ma grand-mère, de sa propre mère, qui a connu les premières grèves au moment, enfin les grandes grèves de 36, qui s'est politisée à ce moment-là, en fait.
Il y a du racisme, il faut en parler. Comment vous le percevez à travers ce que vous avez pu entendre de...
J'ai l'impression que les personnes qui ont vécu ce racisme-là ont tendance à le mettre un peu sur le... à l'avoir un peu remisé, c'est-à-dire oui, bon, il y a eu du racisme, mais quand on en parle davantage, tout revient à la surface. Les salles Macquart, les Rital et tout ça, c'était courant. Et ma grand-mère m'expliquait que quand elle était jeune, en fait, ils se mélangeaient pas en fait avec les Français. C'était juste impossible, tellement le racisme était fort. Le racisme anti-italien était très très fort. Et on a un peu tendance à l'oublier. On a un peu une vision folklorisante des Italiens, des bons travailleurs, qui mangent des pâtes, un peu joyeux comme ça. À la vérité, ils ont subi un racisme très très fort en France pendant presque toute leur vie en fait. Et au point que ma grand-mère, par exemple, pour vraiment marquer sa rupture avec s'est sentie obligée en fait de quitter complètement sa famille et de couper les ponts quelque part, tellement elle n'en pouvait plus d'être stigmatisée en tant que Sicilienne, en tant qu'Italienne, et de vivre ce racisme qui était, oui, quotidien à l'école. Enfin, je raconte des anecdotes dans le livre, effectivement, à l'école, dans les colonies, partout. Oui, c'était les salles Macquart, les enfants, et avec les mêmes clichés racistes qu'on a aujourd'hui, il y a quelques années, encore un peu sur les Maghrébins, aujourd'hui sur les Roms, ils font trop d'enfants, ils mangent notre pain, et c'est des joueurs de couteau. C'est toujours les mêmes choses qu'on rejette de génération en génération de migrants. Mais à l'époque, c'était ça déjà.
C'est d'ailleurs intéressant de lire vos bouquins l'un après l'autre, parce qu'on perçoit ça, hein, qu'avec des années d'écart, les mêmes choses se reproduisent. Est-ce que vous avez l'impression que 10 ans, 20 ans après, pour ces personnes-là qui ont souffert de ça, il y a du ressentiment, il y a une
Non.
acrimonie?
Je dirais pas ça. Je dirais plutôt, c'est triste, plutôt une fatalité. Comme oui, on a vécu le racisme, oui, c'était pas facile. Mais de toute façon, c'était mieux que l'Italie. Donc, comme si l'accueil devait forcément être mauvais. Et de la même façon dont les Italiens, certains Italiens qui ont immigré en France vont être extrêmement racistes contre les Maghrébins, par exemple. Le nouvel arrivé, qui ressemble à qui on était quand nous-mêmes on est arrivés et qui nous renvoie cette image de la pauvreté, on le rejette très très fort. Je pense qu'il s'est remisé. Ma grand-mère, elle a un peu revécu tout. Quand je lui ai fait raconter tout ça, c'est pas qu'elle l'avait oublié. Mais on n'en parle pas parce qu'on a honte. On a honte d'avoir été pauvre, on a honte d'avoir vécu dans la misère, et donc on n'en parle pas, on parle de rien. Et moi, comme je lui ai posé des questions, tout est un peu remonté à la surface. Et c'est comme si elle avait de nouveau vécu cette honte. Mais il n'y avait pas tellement de ressentiment, en tout cas chez elle. Après, les autres Italiens, je ne sais pas, mais il me semble pas.
Alors, on en vient au travail. Alors, vous avez dit, hein, il y a des clichés à propos des Italiens, mais n'empêche qu'ils ont donné leur santé et leur temps de travail. Ils n'ont jamais calculé les heures qui s'accumulaient avec, pour un certain nombre d'entre eux, peut-être au-delà, au retour dans la maison, la construction, l'amélioration de l'habitat, etc. C'est impressionnant quand même.
Ah ben oui, mais de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. C'était tellement mal payé. Je dis dans le livre que les Siciliens à l'époque, donc dans les années 30, c'est la seule population étrangère et même parmi les, enfin, la seule population tout simplement, où dont les femmes travaillent aussi. Et c'est pas une question d'émancipation des femmes, hein, c'est une question que les ouvriers siciliens étaient tellement mal payés, c'était au les plus bas sur l'échelle salariale, on va dire, que leurs femmes étaient obligées de travailler à une époque où les femmes restaient davantage à la maison.
Y compris des femmes qui avaient encore des bébés, enfin,
Oui,
voilà, et qui
on
devaient
en est.
s'absenter pour
Ben, on pouvait allaiter à l'usine, de toute façon, on amenait les bébés et puis il y avait des coins pour pour allaiter les bébés.
Ils ont travaillé quand même dans beaucoup d'entreprises, pas seulement le bâtiment. Et quand on parcourt les noms là, que vous énoncez, on est impressionné, parce que c'est des noms qu'on a pu entendre après dans les années 60-70. Ils ont été là partout, en quelque sorte. Hein.
Oui, bah, effectivement, dans toutes les usines.
À la Grand-Trie, Val-Isère, et puis la mécanique, et puis
oui,
le bâtiment.
Bouton, Oui, les grandes usines grenobloises, effectivement, la viscose. Il y a eu énormément de Siciliens et d'Italiens, hein, parce qu'il y avait beaucoup à Grenoble aussi d'Italiens d'Épouille, de Corato.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda dallassù. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Nessuno sa la verità. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità.
Bien sur Couleur FM 97.1 et nous venons d'écouter Parla più piano, thème du film Le Parrain. Cette belle chanson d'amour est interprétée par Roberto Alagna.
Quel lien les travailleurs donc avaient avec l'engagement syndical? Vous en parlez?
J'en parle, alors j'aurais du mal à généraliser, mais en tout cas en ce qui concerne ma grand-mère, enfin, sa mère plutôt, mon arrière-grand-mère, elle était syndiquée à la CGT. Mais je crois que c'était une époque où tout le monde était syndiqué, en fait. Mmh. C'était impossible, il me semble, à l'époque, d'être ouvrier sans être, appartenir à un syndicat et se battre pour ses droits. Et il y avait une conscience de lutte des classes très forte à l'époque. Les ouvriers étaient syndiqués et c'était très clair qu'ils étaient ouvriers et qu'en face, il y avait les patrons. Enfin, c'était marqué, la différence, la distinction, et dans la vie quotidienne aussi. Enfin, c'était pas du tout les mêmes conditions de vie. Peut-être la frontière, elle est plus difficile à voir aujourd'hui. Clairement, les gens avaient une conscience de classe. Et d'ailleurs, la CGT à Grenoble publiait des tracts en italien. Enfin, les Italiens étaient, avaient leur propre... Enfin, c'était les mêmes syndicats, mais voilà, il y avait des textes en italien, les gens parlaient en italien, enfin, il y avait ce milieu immigré, syndicalisé.
Il y a le travailleur alpin,
oui,
dont on a pu entendre parler quand on était plus jeune.
Ou pas.
Il le lisait, il... Vous l'évoquez en tout cas.
Je l'évoque, mais ça c'est plutôt mes recherches à moi sur Grenoble. Ça c'est pas mon arrière-grand-mère, enfin j'ai pas d'échos familiaux là-dessus. À part le souvenir des grèves, le fantastique souvenir des grèves de 36. Ça je l'ai, mais pour le reste c'est plutôt des recherches que j'ai fait au niveau des archives de Grenoble et oui de la presse de cette époque et tout ça.
Alors ces grèves de 36.
Ben elles ont duré longtemps, elles ont été très fortes et notamment à Grenoble. Et ça a été voilà, un formidable moment d'émancipation, notamment pour les femmes, voilà, qui se sont battues pour une cause. On occupait les usines. Enfin, c'était un moment très, très fort. Et on a eu l'impression d'obtenir quelque chose. Bon, alors, toutes les mesures qui ont été obtenues, juste après, il y a eu la guerre. Et ça a été repoussé jusqu'aux années presque 50, je crois. Enfin, mais voilà, il y avait un sentiment comme ça, je pense, presque irréel. Moi je suis née je suis née en 1984, c'est pas vraiment mon époque, mais il faut peut-être imaginer une époque dans les années 30 où il y avait les sonneries d'usine toute la journée, où les gens allaient à l'usine toute la journée, ressortaient fatigués, habitaient dans des taudis, et ce mouvement d'union vraiment où on occupe les usines, enfin ça paraît, et pendant des grosses périodes quand même, plusieurs semaines, où la lutte elle est nationale en plus. Mon arrière-grand-mère effectivement, elle est devenue communiste à ce moment-là d'ailleurs.
Vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez fait des recherches pour ce bouquin. D'ailleurs, il y a une biblio à la fin.
Oui. Hein?
Et ces recherches, c'était pour quoi? C'était pour l'appuyer sur des faits qui ne vous avaient pas été rapportés?
Non, c'est que l'idée, ce n'était pas spécialement de raconter ma famille. En fait, c'était plutôt qu'à travers l'histoire de ma famille, je voulais raconter l'histoire d'une immigration à Grenoble et l'immigration sicilienne qui a été importante. Donc je pars de ma famille et de ses souvenirs, mais pour visualiser plus globalement une immigration, c'est la petite histoire qui parle de la grande histoire en fait. Et c'est pour ça que ce livre, beaucoup de gens s'y retrouvent aussi dedans, même s'ils n'ont pas tout à fait le même vécu. C'est que c'est une histoire un peu universelle aussi des immigrés. C'est pour ça que j'ai fait des recherches.
La Sicile est très présente dans le bouquin, avec une culture plutôt masculine, on va dire.
Machiste, on peut
dire,
très patriarcal.
Vous employez pas le mot, donc je l'ai pas employé non plus.
Bien sûr, la Sicile est très présente parce qu'en arrivant à Grenoble, ils ont recréé ce cocon sicilien. Mmh. Ils se sont pas extraits de ce milieu sicilien, vu que de toute façon, ils étaient mieux entre eux, vu que l'extérieur était hostile. Il y a ça aussi. Et puis, on était mieux. Il y avait de la solidarité, une entraide, quelque chose comme ça. Donc oui, le milieu sicilien a été très fort, très pesant aussi. Et je parle pas mal de personnages féminins de ma famille qui sont un peu qui sont allés un peu contre les autres personnages masculins, et notamment mon arrière-grand-mère qui a divorcé, enfin séparation de biens et de corps, mais en tout cas à l'époque divorcer de son mari c'était quelque chose de complètement improbable. Elle a divorcé juste avant guerre, je crois, donc dans la fin des années 30, déjà pour une femme française quelque chose d'assez extraordinaire. Une Sicilienne, ça a été vraiment quelque chose de très difficile. Voilà, donc ce milieu sicilien avec ses bons côtés, ce côté solidarité, voilà, d'entraide, de langue, de soutien familial, de grosses familles qui vivent tout ensemble, on s'élève les uns les autres et tout ça. Et en même temps, carcan quand... pour les femmes qui peuvent pas faire ce qu'elles veulent, qui doivent en référer aux hommes, et carcan aussi, peut-être, en tout cas pour mon arrière-grand-mère, carcan religieux, famille très catholique, et elle est devenue athée aussi, elle est devenue communiste, elle est devenue athée, elle a divorcé, bon, c'est quand même un parcours assez atypique. Et voilà, elle est devenue athée aussi parce qu'elle a estimé que, bon, le communisme avait fait un peu son chemin aussi, mais elle a estimé qu'il y avait trop de misère, elle avait perdu deux enfants en bas âge, sa sœur aussi. Donc voilà, c'est aussi l'histoire de personnages un peu qui vont à l'encontre.
Si je dis que ce bouquin, enfin, je l'ai perçu comme ça, que c'était un hommage au courage de ces femmes qui ont résisté à la pauvreté, qui ont résisté à la précarité, qui ont résisté parfois, j'ose pas dire souvent, mais à la violence des hommes. C'est ça un peu, non?
C'est ça. Plus globalement, c'est donner la parole à ceux qui se sont tus, ceux qu'on a oubliés, en fait, refaire vivre des témoignages de gens, des simples gens, en fait. Voilà, ordinaire. Et puis, effectivement, ces personnages féminins un peu hors du commun. Et... Oui, saluer leur courage à l'époque en tout cas.
Les tagliatelles. Mm-hmm. Merci pour la recette. J'ai pas essayé encore. Vous les avez faites? Bien sûr.
Oui, oui.
Ça va, c'est bon?
Bah
on peut y aller.
Ouais, allez-y.
Bon, on va y aller.
Il y a un petit coup à prendre pour.
Oui, mais ça, oui.
D'accord. Dérouler, mais.
Oui. Il y a un truc qui est très impressionnant, c'est la corvée de la lessive.
Voilà, vous l'avez bien lu mon livre. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Là. Ça fait 2 ans que je l'ai pas relu. La corvée de lessive, tout
Alors,
à fait.
C'est une cuve par tous les temps dehors.
Oui.
L'eau froide.
Globalement, toutes les tâches ménagères. Ma grand-mère se rappelle de l'arrivée de la machine à laver et comme ça a bouleversé sa vie. Voilà, dans les. Objets, la vie quotidienne, effectivement, je crois que la machine à laver arrive. Oui, effectivement, la corvée de la lessive, c'était quelque chose de. Enfin, faut imaginer les draps gorgés d'eau froide. Tout prenait des proportions incroyables, d'autant que cette histoire se déroule à moitié pendant la guerre, donc dans des conditions de vie encore plus difficiles. Oui, et puis c'est les femmes qui faisaient ça, hein. C'était dur.
Le titre, Disgrazia.
Disgrazia, c'est une expression sicilienne, italienne aussi, mais en tout cas. Pas mal utilisé par les Siciliens, qui veut dire quelque chose comme malheur. Mais on peut dire disgrazia, c'est-à-dire malheur sur toi, malheureux, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise, malheureux. Mais en fait, je l'ai choisi comme titre parce que mon arrière-grand-mère l'utilisait énormément pour qualifier la Sicile. Elle disait la Sicile, malheur sur la Sicile, ce pays qui a pas su nous garder en fait. Elle en voulait à la Sicile de les avoir laissés partir, comme si c'était quelque chose, un être humain, mais c'était son pays. Et elle est retournée en Sicile que dans les années alors 80, je crois, ouais, peut-être un peu avant. En tout cas, elle était à la retraite, elle n'y était pas retournée avant. Et jusque-là, c'était, voilà, il est devenu beau ce pays que quand elle est devenue vieille, en fait. Mais sinon, elle lui en voulait à ce pays. Parce que mon arrière-grand-mère a dû émigrer en France avec son père. C'est pas sa mère qui est venue, c'est elle qui a accompagné son père, parce que sa mère, elle était enceinte. Et elle avait, bon, je ne me rappelle plus là, mais elle avait 12 ans, je crois. Donc, elle a vécu dans des conditions très, très dures avec son père, à devoir s'occuper de son père comme une femme, sauf qu'elle avait 12 ans, dans un pays étranger, dont elle ne parlait pas la langue, à rester enfermée toute la journée, jusqu'à ce qu'elle arrive à, elle aussi, travailler et tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que c'est le titre. C'est pays de malheur, un peu.
Comme c'est le premier, c'est peut-être intéressant de vous demander comment vous travaillez. Il y a du texte, il y a de la recherche, vous l'avez dit, mais il y a du dessin. Comment est-ce que vous vous y prenez? Vous avez un synopsis? Vous commencez une première vignette, une première page ou...
Théoriquement, quand on fait bien les choses, on fait ce qu'on appelle un storyboard. C'est-à-dire qu'on prédessine tout le livre au brouillon et on met le texte avec des dessins mal dessinés.
Et alors, vous faites bien les choses?
Non, pas pour celui-là. C'est pour ça qu'il est un peu dur à lire. Décroché, c'est normal. C'est parce qu'il y a un petit passage comme ça. Non, j'ai pas bien fait. Le deuxième, je m'y suis mieux tenue.
Les deux sont différents.
Mais effectivement, normalement, pour bien avoir un fil conducteur, c'est mieux de faire comme ça. Non, j'ai pas vraiment de technique, en fait. J'ai recueilli beaucoup de matière, que ce soit des interviews ou des archives, beaucoup de documents. Et après, je les ai mises en images, en fait.
Vous travaillez au crayon ?
Là, c'est beaucoup de l'encre de Chine.
L'encre de Chine.
C'est beaucoup à la plume et au pinceau.
C'est très long.
Globalement, c'est long. Hein. C'est du travail.
Mamma, sono tanto felice. Felice, viver lontano.
Couleur FM dans Au fil des arts. Mama, chanson préférée de l'arrière-grand-mère de Colin Picot, chantée ici par Luciano Pavarotti.
Si vous voulez, on va évoquer le second de l'autre côté. Je dis le second parce que pour l'instant, il n'y en a pas un troisième. Est-ce qu'il y en aura un troisième un jour ?
On verra.
Eh bien, on verra. Et je voudrais que vous nous lisiez un texte qui est un très beau texte. Il a été écrit par Hamid. Mm-hmm. Il s'appelle Dédicace. Et c'est en même temps, c'est très troublant parce que c'est une appropriation de la langue française qui est très impressionnante. Il y a de la violence.
C'est un texte qui a été un poème qui a été écrit dans les années 70, du coup par un travailleur maghrébin qui habitait Grenoble en fait. Donc il s'appelle Dédicace. Je vous dédie mes fins de mois et les longues attentes dans les bureaux d'embauche. Ma détresse, mes larmes, mes angoisses, le requiem de mes boyaux contractés. Mon regard avide, mon ventre vide. Je vous dédie les « on vous écrira » et les « rentrez chez vous ». Je vous dédie mes longues marches et mes cloques et mes claques, ma peau de melon et ma gueule de bougnole, ma démarche de raton et mon accent de bico. Je vous dédie mes tarifs horreurs, mon caveau, mon ghetto, ma solitude, mes vaines sollicitudes, mes turpitudes. Je vous dédie mes tuberculoses et mes toux et mes crachats et mes salaires bacilles de coq. Je vous déduis mon permis de séjour, sauf conduit qui ne conduit nulle part, sauf aux sales besognes. Je vous dédie mon contrat de travail, passeport pour la survie. Je vous dédie le pain que je vole à vos citoyens et mes fortunes accumulées sur leur dos, le paradis où je me délecte, grâce à leur bonté. Je vous dédie tout et n'importe quoi, mais foutez-moi la paix.
Dans ce livre, il me semble qu'il y a trois parties. Vous avez rencontré de vieux Algériens, les Chibani,
oui.
Hein, on les appelle. Puis une femme d'une cinquantaine d'années,
mm-hmm.
Zara.
Oui.
Et puis ensuite, vous allez rencontrer plusieurs, pas mal, même des jeunes émigrés.
Oui. Hein,
entre 20 et 40 ans, c'est ça.
Voilà. Qui sont en France depuis moins de 10 ans.
Moins de 10 ans,
entre 10
ouais.
et 15 ans.
Oui, oui.
Effectivement, la première partie s'attache plutôt à raconter l'immigration à Grenoble dans les années, à partir des années 50 jusqu'aux années 70. Donc, j'ai interviewé... des vieux Algériens, sur qui m'ont raconté leur parcours et comment ils sont arrivés à Grenoble et dans quelles conditions ils ont vécu. Et notamment, toujours pareil, des conditions très misérables et les cafés garnis et les luttes autour des logements et le travail où ils ont construit énormément, en plus dans un contexte où c'était les Jeux Olympiques à Grenoble. Donc il y a eu énormément d'appels à la main-d'œuvre aussi pour construire la ville. La deuxième partie, c'est le parcours d'une femme franco-marocaine qui donc s'appelle Zahra, et Zora peut-être, c'est pas son vrai nom. Alors.
C'est Zahra, je crois.
Zahra. Qui est analphabète, et donc elle raconte son arrivée à Grenoble, venue après son mariage, dans les années 70, effectivement. Et donc elle ne sait ni lire ni écrire, et elle parle de ça aussi. De qu'est-ce que ça fait de pas savoir lire et écrire, de se retrouver dans un pays dont on parle pas la langue, et en plus qui est très différent du Maroc. Un beau témoignage. Et la troisième partie, effectivement, donne la parole aux derniers immigrés maghrébins venus en France. Donc, ils sont là depuis, ce que je disais tout à l'heure, depuis 15 ans maximum. Et c'est plus trop les mêmes problématiques. Là, c'est plutôt les problématiques de... soit c'est des étudiants, soit c'est des sans-papiers, soit en situation complètement précaire. En gros, c'est ça. Ça donne un peu un panorama, comme ça, sur l'immigration maghrébine à Grenoble.
Alors... Zahra, c'est un personnage très émouvant. Donc, elle ne sait pas lire, vous avez dit, elle ne sait pas lire. Elle va commencer par apprendre l'arabe. Après, elle va à des cours d'illettrisme, enfin, de français. Mais il me semble qu'elle a commencé par apprendre à écrire l'arabe.
Oui, les deux, en fait, en même temps.
Les deux en même temps.
C'est-à-dire, elle suit des cours d'arabe à la mosquée pour apprendre à lire l'arabe. Mais le français, oui, c'est un peu en parallèle, en fait. Mais les deux sont très difficiles, de toute façon.
Et il y a quelque chose de très touchant, parce qu'une fois qu'elle maîtrise l'arabe, qu'elle sait l'écrire, oui. Elle lit un livre d'enfant,
oui.
Et elle se met à pleurer.
Oui, effectivement, quand elle arrive à lire pour la première fois et à comprendre ce qu'elle lit, en fait. C'est ce qu'elle raconte, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se casse la jambe. Et voilà, ça la fait pleurer, effectivement, d'émotion, d'avoir réussi à lire quelque chose. Parce qu'elle dit... que voilà, sa tête est dure, et qu'enfin, quand elle a commencé à déchiffrer en fait un peu le français, elle a dit ça y est, je vois la lumière. Quoi. C'était quelque chose comme ça d'accéder au monde de la connaissance. Elle qui a vécu au milieu de frères qui avaient le droit d'aller à l'école, mais elle n'avait pas le droit. Et elle dit d'ailleurs, c'est eux qui avaient la bougie le soir pour travailler, elle n'y avait pas droit. Donc voilà, toute une vie comme ça, un peu tenue à l'écart pour diverses raisons. Et lire et écrire, c'est quelque chose... Mais elle n'y arrivera pas, hein. C'est trop dur, c'est trop tard. Mais voilà, déchiffrer déjà, c'est quelque chose d'énorme.
Je ne veux pas être indiscret, mais vous avez bu beaucoup de café, vous avez rencontré plein de gens. Thé peut-être, je ne sais pas, mais vous avez rencontré beaucoup de...
Des litres de café.
Oui. C'était une démarche que vous aviez imaginée dès le départ, c'est d'aller rencontrer le plus de maghrébins possible.
Non, au départ, il y a eu ce reportage justement avec cette dame. Une fois que je l'ai fait, en fait, pendant que je le faisais, j'ai découvert l'existence du quartier Trécloître à Grenoble, qui était le quartier algérien dans les années 70.
Qui est derrière l'église de Notre-Dame, c'est ça ?
C'est ça, oui. Mm-hmm. Et donc, pendant que je faisais le reportage de Zahra, j'ai découvert ça, et ça m'a donné envie de creuser un peu plus. Et donc là, je suis allée rencontrer plutôt les vieux Algériens. Et une fois que j'ai m'étais lancée avec les vieux Algériens, je me suis dit, mais en fait, toujours, je parle du passé. Le passé, bon, ça serait intéressant de voir les jeunes d'aujourd'hui qui arrivent, qui continuent d'arriver. Est-ce qu'ils arrivent pour les mêmes raisons? Et est-ce qu'ils sont heurtés aux mêmes difficultés que les anciens, en fait? Donc, c'était un peu ça, l'idée. Donc, ça s'est fait en...
On peut malheureusement pas tout évoquer de ce livre, qui est vraiment très riche, que j'invite ceux qui sont là, puis ceux qui vous écouteront après, à lire, parce que c'est vraiment les deux. Hein. C'est vraiment un beau bouquin. Il y a des choses qui m'ont impressionné. Je reviens à la question du travail, comme tout à l'heure, avec les Italiens. Ces maghrébins, ils ont bossé aussi. Et puis, alors, ce qui est très impressionnant, c'est que, bon, on est Grenoble, les années 60, les Jeux Olympiques, et quand on lit la liste de tous les chantiers auxquels ils ont participé, c'est notre vie actuelle, là, qu'ils ont organisé. Il y a Chamonix, il y a l'autoroute, il y a je ne sais plus quelle rocade à Grenoble, il y a le stade, le palais des sports, c'est vraiment très impressionnant.
Il y a tous les bâtiments, en fait, construits dans les années 60, mais effectivement, pour les Jeux Olympiques, il y a eu l'hôpital, le commissariat, le musée dauphinois, le village olympique, enfin j'en passe. Effectivement, tout ça a été construit par des travailleurs immigrés et principalement maghrébins. Et les stations, enfin tout ça. Ouais.
Qui avaient pourtant des conditions de vie absolument d'une précarité incroyable.
Oui, effectivement. comme à chaque fois, l'accueil n'est pas fantastique. Ils vivaient dans des conditions très précaires, soit dans des garnis, soit dans des casernes désaffectées qui étaient un peu chapeautées par la préfecture et qui servaient un peu de lieu de surveillance, parce qu'on est en plein contexte de guerre d'Algérie en plus. Donc il y a ce côté-là, on surveille les étrangers aussi. Et donc des fonctionnements de foyers Sonacotra un peu après, ou même de foyers préfectoraux au fonctionnement très policier en fait, coercitif, où les libertés sont réduites à peau de chagrin, effectivement, où les gens sont excentrés, enfin, tout pour que la vie quotidienne, elle soit difficile. Et c'était aussi une forte population d'hommes seuls, qu'on a considérés comme célibataires par l'administration, alors qu'ils ne l'étaient pas forcément, ils avaient souvent une femme au pays. Mais de fait, on les a cantonnés un peu à un statut comme ça. Et du coup, oui, c'était une immigration très masculine dans les années 60, à partir des années 50 jusqu'aux années 70. Après, les femmes sont un peu venues. Mais au départ, c'était très masculin et très difficile, oui. Sur les chantiers, la vie sur des chantiers, le travail sur des chantiers sous-payés, avec énormément d'accidents du travail. À un moment donné, à Saint-Hilaire-du-Touvet, là, où il y avait l'hôpital de rééducation et tout ça, il y avait... Il y en a un qui raconte, il dit on se serait cru à Constantine là-bas. Tellement. Enfin, il y a beaucoup de blessés. Et oui, des conditions de vie. Alors, à Grenoble, il n'y avait pas énormément de bidonvilles. Il n'y en avait que quelques-uns. Mais il y avait ce qu'on appelait aussi les quartiers nègres, qui étaient à Fontaine, où on mettait un peu. On reléguait comme ça un peu tous les étrangers, qui vivaient dans des. Comme des. Pas des bungalows, des préfabriqués un peu. Voilà, sans chauffage, sans rien. Enfin, c'était, oui, très dur.
Alors, ce quartier où ils se sont regroupés pour beaucoup, toujours Grenoble, Trécloître, arrive à un moment où la municipalité décide de faire des travaux de rénovation. Et vous nous montrez que, en fait, derrière ces travaux de rénovation, il y a une idée.
Oui, en fait, ça dit, ces histoires de rénovation publique ou d'opérations de rénovation, il faut toujours un peu s'en méfier. Parce que souvent, sous couvert de salubrité, c'est des populations en fait, qu'on veut évincer. Et effectivement, cette population immigrée, et peu importe, n'importe comme les Siciliens à l'époque, qui, de fait, ne sont pas acceptés par la population française ou par la société française, donc se recréer un microcosme, et parce qu'on a une langue commune, on a des traditions, on a une culture, c'est plus facile aussi. et des solidarités. Et ben, quand ça commence à fonctionner de façon autonome, ces noyaux comme ça, et ben ça fait peur en fait. Ça fait peur parce qu'on se dit, oh là, mais ils n'ont plus besoin de nous, ça va pas. Et ça devient une menace en fait. Et donc à un moment donné, je pense effectivement, ce quartier algérien, qui d'ailleurs n'était pas, qui était plus italien qu'algérien au niveau des propriétaires, mais oui, très algérien au niveau de l'occupation, des, on va dire l'occupation le week-end ou tout ça, il y avait le marché, enfin, c'était le lieu de rencontre en fait. Effectivement, ça fait peur. Et donc, des fois, on envisage des opérations de rénovation et de réhabilitation d'un quartier qui, par ailleurs, est en très mauvais état, hein. C'est pas le problème. Mais voilà, peut-être d'une certaine façon, avec un certain angle, pour éparpiller les gens, quelque part, en fait. De fait, c'est ce qui s'est passé. La majorité de la population qui habitait à l'époque a été dispatchée. Beaucoup sont allés habiter à Tesserre, qui est, bon, on n'est pas à Grenoble, mais un quartier de Grenoble qui se construisait à l'époque, un peu, en périphérie, quoi. Et sont venus d'autres habitants. Les commerçants, je parle un peu, à un moment donné, de, je ne sais plus, je crois qu'il y avait une cinquantaine de commerces dans le quartier très cloître, qui est 5 rues, hein. Aujourd'hui, il y en a 10 hein, maximum. Effectivement, au moment de cette opération de réhabilitation, il y en a eu plusieurs, alors je ne voudrais pas me perdre, mais ça a été très compliqué pour les commerçants de racheter leur commerce, etc. Bon, de fait, beaucoup sont partis, alors qu'il y avait, je ne me rappelle plus du chiffre, mais peut-être 14 cafés maghrébins ou quelque chose comme ça, même peut-être plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Et le quartier est mort, hein, faut bien le dire, quoi. Enfin, mort, en tout cas, au niveau commerçant. Donc, voilà. Et puis, on a juste à côté, alors après, ça fait rentrer dans... Il faut un peu connaître Grenoble, mais... Après, il y a eu l'époque Carignan, avec d'autres réhabilitations, et notamment la rue Sevran et tout ça, qui ont complètement changé de visage, et qui sont très, très propres, j'ai envie de dire. Enfin, c'est beaucoup de locaux d'architectes. Enfin, on passe d'un monde à l'autre quand on passe de la rue Sevran à la rue Trécloître. C'est assez frappant. Donc voilà, c'est jamais neutre, en fait. Et ça, c'est pas vraiment moi qui le dis, c'est le groupe d'études urbaines des années 70, qui était un groupe d'étudiants en urbanisme, et très politisé en fait, mais eux disent que non, en fait, c'était normal à l'époque, mais vu d'ici, vu d'aujourd'hui, hein, c'est politisé, qui ont travaillé justement sur le quartier, la population, et sur les projets avec la mairie, et à un moment donné, se sont désolidarisés de la mairie, justement pour ces questions-là, en disant, bon, là, en fait, peut-être que derrière ces idées, ces belles idées de refaire les habitations, on veut évincer une population qu'on juge quelque part indésirable.
Alors, il y a là aussi, avec à l'encontre de cette population, il y a un racisme assez fort.
Oui.
Et on n'est pas très fiers quand on lit ça. Hein. Parlez-nous de ce président de la Chambre. Bon, c'était il y a quelques années, le président de la Chambre de commerce là, qui oui. écrit à la mairie, enfin, qui fait tout un tapage.
On est dans les années 70, je crois. Effectivement, donc il est pâtissier sur la place Notre-Dame et président de la Chambre de commerce et écrit une lettre au maire, une lettre que j'ai réécrite telle quelle. Hein. C'est incroyable, ce degré de... Allez, on y va, quoi. Il n'y a pas de complexe. Voilà, qui parle des Algériens en disant ben, qu'ils sont sales, qui menacent les femmes, hein, clairement, qui font du tapage. Bon, et puis il menace, quoi. Il dit, si rien n'est fait, je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller. Enfin, voilà, effectivement. Mais le racisme était... Bon, là, au moins, il est dit. Mais le problème de ces années-là, surtout, c'était beaucoup de disparitions d'Algériens. Enfin, on connaît, on sait ce qui s'est passé à Paris en octobre 61. Mais voilà, plutôt des assassinats comme ça. Il y a des faits divers, ce qu'on appelait des faits divers, qui n'en étaient pas en fait. Mais le racisme allait jusqu'au meurtre. Et encore plus quand on était dans la période de la guerre d'Algérie.
Quand vous allez rencontrer... On va dire la population plus jeune, hein, parmi ces Maghrébins, il y a une chose qui frappe, enfin il y a plein de choses, mais il y en a une qui frappe énormément, c'est la vie de ces gens-là. La plupart du temps, ils n'ont pas de papier, où ils passent leur temps à attendre des récépissés, de demandes, etc. etc.
Oui.
Pas de papier, pas de logement. Pas de logement, pas de travail déclaré, pas de travail déclaré, pas de possibilité. Pour aller chez un médecin, on emprunte la carte vitale du copain. C'est effarant. Et quand en 2015 toute une population qui est comme ça. Mais là, je trouve que vous nous le faites toucher du doigt, c'est assez fort.
C'est des vies effectivement marquées par l'attente et par l'ennui et par le désespoir en fait. On n'est plus du tout dans la migration des années 50 où il y avait du travail. Et quoi qu'il en soit, il y avait du travail. Et une grosse solidarité de communauté quand même. Aujourd'hui, bah, les frontières sont fermées. Alors jusqu'à pas longtemps, hein, la migration, le chiffre au niveau de la migration en France, l'arrivée... était stable, hein, pendant les 30 dernières années, il est stable, c'est juste qu'il y a de moins en moins de visas accordés, donc les gens entrent d'autres façons, et notamment entrent avec soit des visas de touristes qui se terminent, et donc les gens deviennent sans papier assez rapidement, soit viennent par la mer, enfin bon voilà, il y a différentes façons, soit sont demandeurs d'asile, puis sont déboutés, et donc ensuite se retrouvent sans papier. Donc ces gens-là racontent. Effectivement, on a une petite tendance, alors peut-être moins aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup, mais au moment où j'ai fait le livre, et donc il est sorti en mars, et toutes mes interviews, elles datent de... Tac, je ne me rappelle plus, mais peut-être 6 mois avant, quelque chose comme ça,
un an avant. Elles sont récentes.
Ouais.
Je confirme.
Elles sont récentes, mais avant... Enfin là, on en parle beaucoup plus, mais... Ces vies-là, surtout plusieurs personnes qui sont en attente de décision de la préfecture et qui sont sans papier depuis 10 ans, par exemple, et qui attendent une décision. Et ils ont un récépissé, donc un document de la préfecture, délivré par la préfecture, qui dit qu'on est en attente de quelque chose, alors d'un accord ou d'un refus, hein, mais en tout cas, on n'est plus exactement sans papier. On a ce récépissé, mais qui ne vaut rien non plus, parce que souvent, il n'y a pas l'autorisation de travail. Donc, ces gens sont dans l'attente. Ils n'ont pas le droit de travailler, ou alors ils trouvent du travail au noir, mais là... Les confrères sont les premiers à arnaquer aussi. Hein. Enfin, c'est toujours cette solidarité à double tranchant. On trouve du travail, mais sous-payé. Donc oui, c'est des vies dures à attendre. Et au final, en fait, ces gens-là ont juste envie de... S'ils sont partis... Alors certains ont quitté l'Algérie, par exemple, après la décennie noire. D'autres, comme des Tunisiens, juste simplement disent on veut juste... Nous aussi, on veut voir les pays riches. Nous aussi, on veut voyager. On n'aurait pas le droit, en fait, quelque chose comme ça. Ou nous, on veut juste une vie bien. Ben oui, pourquoi pas, en fait. Et donc, ces témoignages, ils sont un peu à ce propos-là. Yo.
Hamzewi Madamine. Kafon.
Le mhaba sanak ya rabbi. Wil kurh zman sanatou nas. نسيانهم نعمة يا ربي بغضك ذبحز يقتل الاحساس امانة يو امانة يي المحبة شيخة للمالي قاعدة عقار كم يلي يجي ليل ولا نهار وماني
قاعدين نعيشوا كي زبدة في بوبالا دي فقر نقر مانجو مكر ما نعرف مونجالا دي فقر نقر ماما مانجو مكر نقر ماما هوني خنقة برشا غمة فات كلام جيب كلام في الذلي ما فما سلام لومتني كي ما فما ملام رسم التانكس ديما قدام بتبيعتو الدور وفي جيبي ما خداش الهف بتبيعتو صغري كبري تعدى شيخة مخي خف بتبيعتو راسي زمزم نكمل عزي روح لف عنا كان ضربين صباح مش الناس كل قرات هوني تاكل بيت هوني تاكل ربوش مات لي ما عجبو يتكلات هوني كلها كيف كيف نمبر وان يا عفات هوني مازال العرض قديم يمتع الله يا الكريم هوني لام الدم بهيم ليبو زيت خارج رحيم هوني نهار العيد مسرحية الزعيم
لا نندبهم هوماني هوماني هوماني
الزنقة الشيطان ترى ولاد الحومة لك شمعة ما توحل شختك اختاتي حتى من ربع صا واللي تلك عم شربة يولي ينفخ عالصلاة عيشة درغة منقص قاتة برديني كذبت شوكولاتة يزي من دمعة سيالة يزي من لفالة يزي مكلة الوكالة قداش من واحد فينا لعبوا له لعبة شنقالة ولا بجنب الحيط نمالة على كل مقالة تجست قرب ما تحلبت الرجلة كينا في القلب ما عدش تاكل لغة الدرب بدني مخي تخرب من ظالمني بيح وكلب ادخل لحو مناتي قرب من ريحتك لعبة تتهرب كي تحيح خدوات زرب لبدا كانت الناس خايفين خايفة كانت الناس لبدين لا تحب لا تمنى خانك الزمن هوني ما فما لا فما لا فما عشنا طحنا قمنا نلقى وروحنا في الدربو تحبونا شكون نسبو دي شكون تحبونا نسبو
ندبهم
راك مصدى راك لاصدى راك سمعت الحمد شيخش الرصدى راك مصدى راك لاصدى راك سمعت الحمد شيخش الرصدى هو ماني
toujours sur Couleur FM, toujours dans Au fil des arts. Nous venons d'entendre Oumani, une chanson du rappeur tunisien Kafon, qui parle de la pauvreté en Tunisie et des quartiers populaires.
Au fait, pourquoi est-ce que, à plusieurs reprises, dans le livre, vous rencontrez des Maghrébins, jeunes ou moins jeunes, et vous leur faites dessiner leur quartier ou leur maison de là-bas? Pourquoi est-ce que vous faites ça?
Je ne sais pas. J'aime bien faire dessiner les gens.
Oui.
Ça reste des BD reportages, hein, donc c'est du dessin quand même. Parce que aussi, quand les gens ils dessinent quelque chose et ils parlent différemment dessus, ça libère la parole aussi. Donc ils racontent autrement en dessinant en fait.
Quelque chose qui est frappant que vous notez, les jeunes qui sont restés au pays et qui imaginent que peut-être ils traverseront la Méditerranée, ils disent plus on va en France maintenant, ils disent on va en Europe.
Ouais.
C'est vraiment ça?
Oui, ça fait quelques années même, je pense.
Ouais.
Mais peut-être que ça a toujours été comme ça. Sauf à l'époque des Algériens, où il y avait un lien avec la France très très fort. Mais oui, maintenant, la France, l'Espagne, c'est l'Europe. C'est ça, ils disent même c'est le paradis. Mais ça pourrait être les États-Unis aussi. Ils ont un mot, par exemple, pour qualifier les Gauri, c'est les étrangers européens, en fait. C'est pas plus ce truc-là de la France. Et, enfin, il est moins important. L'idée, c'est d'être ailleurs, en Europe, quoi.
Il me semble que une des différences entre les deux populations, et non seulement bon, une époque différente, mais il y a une grande nostalgie du pays chez les Maghrébins.
Je crois que chez les Italiens aussi.
L'aperçoit davantage, j'ai l'impression. Donc, peut-être.
Parce que je pense que c'est plus vieux. C'est plus vieux. Disons que les gens ont eu. Le temps a beaucoup plus passé. Oui, d'ailleurs, le titre en arabe, c'est Khorba. Ça veut dire l'exil douloureux vers l'Occident, en fait. C'est un mot qui existe en arabe. Mais dans la majeure partie des langues, il y a un mot pour dire le mal du pays, la douleur de l'exil, que nous, on n'a pas en français, parce qu'on est un peuple qui n'a pas eu tellement à migrer. Mais dans la plupart des langues étrangères, il y a ce truc-là, ce mot. Et effectivement, les... Et puis, peut-être... Alors non, parce que quand même, la Sicile, c'est assez éloigné de la France au niveau du mode de vie, mais c'est souvent assez similaire avec les Maghrébins. Hein. J'ai remarqué beaucoup de similitudes entre Siciliens et Tunisiens, notamment, c'est assez près au niveau culinaire et tout. Mais oui, il y a cette douleur-là. Les gens ont une grande nostalgie, effectivement. Mais parce que la société maghrébine et la société française, enfin, c'est deux mondes quand même très différents, une façon de vivre très différente. Donc, on sent la France, c'est froid. Donc oui, ça manque. Surtout quand on est instable, qu'on peut pas retourner. C'est ça aussi le problème des sans-papiers. C'est bon, il y a le quotidien en France qui est douloureux et qui est difficile, mais en plus, on peut pas retourner chez soi. Sinon, et on ne sait pas quand on va pouvoir retourner. Et là, les témoignages les plus douloureux, c'est des gens qui ne sont pas rentrés depuis 10 ans. Alors là, il y a une personne que, pendant que j'ai fait le reportage, il a eu enfin des papiers. Et donc après 10 ans, je crois, ou 12 ans, il est retourné en Algérie. C'est... Enfin voilà, vous ne voyez pas votre famille pendant 12 ans. Il explique d'ailleurs, c'est sûr. Voilà, au début, la famille, elle appelle souvent, presque tous les jours. Et puis petit à petit, ils appellent de moins en moins. Et l'absence, et c'est ça qui est douloureux aussi, en fait, les liens qui se distendent comme ça.
Vous vous êtes attaché à ces personnes.
Ah bah oui.
Cette jeune femme, Souza, je crois qu'elle s'appelle, vous la, perdez de, oui, vous la perdez de vue, vous dites ça y est, je ne la verrai plus. Puis en fait, vous correspondez par Skype quelques temps après.
Oui,
elle est un peu désabusée, elle a...
Ah bah oui, c'est une jeune fille effectivement qui est venue en France quand elle avait 17 ans, 16 ans, qui est devenue sans papier effectivement, mais elle était protégée parce qu'elle était mineure, et puis au final elle s'est... Je sais pas exactement si... Je crois pas qu'elle se soit fait expulser, mais elle est rentrée avant de se faire expulser, enfin de toute façon il n'y avait pas de possibilité. Oui, elle est de nouveau en Algérie, elle a aucune perspective alors qu'elle a passé 4 ans au lycée en France à apprendre un métier, et elle se retrouve de nouveau chez elle à rien faire, et à poser des demandes de visa qu'on paye, hein, et qui sont négatives. Et en fait, je crois que ce qui est important, enfin, ce que j'ai compris, moi, c'est... bon, ok, ça fait rêver l'Europe et tout ça, mais c'est plus que ça, c'est la vie au Maghreb, en tout cas chez ces jeunes que j'ai rencontrés, c'est l'absence de perspective, en fait. L'absence de se projeter dans un futur, d'avoir quelque chose qui donne envie, en fait. C'est pour ça que les gens partent. Et oui, je me suis attachée à ces personnes. Parce que de toute façon, quand on interviewe des gens et qui se livrent et qui racontent leur vie, bah forcément, on réceptionne ça. Donc il faut être aussi à la hauteur de... On ne peut pas juste absorber. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe.
En tout cas, je vous invite à lire ces bouquins. Vraiment, ce sont des bouquins absolument passionnants. Les lire l'un après l'autre, c'est encore plus riche, je trouve. Ils sont différents. Encore une fois, le deuxième est plus structuré, mais on a compris pourquoi. Colline Picot, je vous remercie.
Merci à vous.
Nous nous quittons avec une chanson de l'exil, Mani Mani Yaruma.
دمعتنا فنيتي يا محبابنا بلا حساب قداش نارك يا خاينه في القلوب قوتنا خذيتي الغالي سهرت عين ليالي يا غربة يا مخلف العذاب يا غربة يا مخلف العذاب
ماني ماني يا روما ماني يا يرما
ماني
خارج متعدي الحدود وحالف ما عادش يعود خارج متعدي الحدود وحالف ما عادش يعود خارج في الليل وفي السرقة وقلي بو مليان بالحلقة خارج في الليل وفي السرقة وقلي بو مليان بالحلقة لو ودع حد من أصحابه ولا حد يتحمل عذابه
ماني ماني يا روما ماني ماني يا يمبا ماني ماني يا روما ماني ماني يا يمبا ماني ماني يا يمبا
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.